Morning Edition from NPR News.
Das ist in San Pinterhausen.
France Inter, le 18/20.
Alors que l'on s'interroge, nous en France, sur un retour du virus, allons voir chez les autres comment on aborde cette entrée de l'hiver. Eh bien, pas si mal en Italie, pas très bien en Allemagne, carrément mal en Russie, sereinement en Israël. Un petit tour du monde dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Islande avec une usine unique au monde capable de transformer le dioxyde de carbone en roche. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, mais on vous explique ça dans un instant. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Leugeni a trouvé un condamné à mort qui divise Singapour, une radio palestinienne qui émet en hébreu et une montée du racisme anti-syrien en Turquie. 18h50, le monde selon Joe Biden, avec notamment le retour sur le devant de la scène de Pete Buttigieg. Souvenez-vous, il avait été candidat à l'investiture démocrate, il est secrétaire au transport, donc les crédits sur les infrastructures, c'est son domaine. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Savez-vous quelle est la délégation la plus importante à la COP26? Eh bien, ce sont les lobbyistes des énergies fossiles. Voilà, on n'est pas rendu. Allez, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Le Covid saison 5 comme cinquième vague qui commence à nous inquiéter, nous en France qui avons relâché notre effort et commençons à nous demander si on va pas le regretter un peu vite. Nous ne sommes pas les seuls, mais vous allez voir que nous n'avons pas les yeux sur les chiffres de la même manière. Petit tour du monde comme on ne l'avait pas fait depuis un certain temps dans Un jour dans le monde, un petit tour qui commence en Israël. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Ça commence par vous, comme d'habitude, j'allais dire, Frédéric, parce que décidément, vous servez d'étalon. Premier pays très vacciné, Israël. Premier pays à ouvrir ses restaurants. Premier pays à avoir vu remonter le nombre de cas. Avoir généralisé la troisième dose de vaccin. Alors, est-ce qu'on est de nouveau serein chez vous, alors que vous avez revacciné quasiment tout le monde?
Oui, on est plutôt serein parce que la troisième dose a été administrée à partir du mois d'août. On est descendu en âge jusqu'à 11 ans. Donc la troisième dose, elle est désormais disponible jusqu'à 11 ans. J'ai regardé les chiffres. 80% des Israéliens de plus de 60 ans sont triple vaccinés. 60% des 30-59 ans sont vaccinés. C'est mon cas, je l'ai fait le 1er septembre. Le vaccin, il est gratuit. Il est pris en charge par les caisses de sécurité sociale publique. Faut dire qu'il y avait urgence parce que ce qu'on a vécu en juillet-août en Israël, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre dans l'Union européenne. En juin, on était quasiment à zéro mort par jour. En août, on était à 30 morts en moyenne par jour pour un pays de 9 millions d'habitants. Donc vraiment, ça a flambé cet été. Et aujourd'hui, on est retombé à peu près à 3 morts en moyenne.
Alors, il y a une chose qui nous différencie quand même, Frédéric, les Israéliens et nous, c'est que vous n'avez rien relâché ou quasiment rien sur les gestes barrières. À l'école, par exemple, on n'a jamais enlevé le masque.
Exactement, les enfants israéliens, les enfants dans les écoles israéliennes n'ont pas dû, n'ont pas eu, n'ont pas pu tomber le masque. Donc ça, forcément, même si c'est un peu inconfortable, surtout qu'Israël, c'est quand même un pays chaud, donc on transpire, on a le masque qui colle. Mais bon, le masque n'a jamais été tombé. Ensuite, les enfants, avant chaque rentrée des classes, ils doivent faire un petit test à la maison, un test instantané, gratuit, qui est donné aux parents. Donc il y a déjà eu la rentrée d'été et puis la rentrée après les grandes fêtes juives du mois de septembre. Donc les petits ils doivent se faire tester aussi. Et puis aussi, on va dire que c'est aussi des gestes barrières, mais les touristes rentrent seulement depuis une semaine. Une semaine en Israël après un an et demi de fermeture. Et c'est vraiment très très strict pour rentrer en Israël. Il faut faire des tests, il faut faire un début de quarantaine et il faut avoir eu 3 doses.
Frédéric, vous nous parliez d'être tout petit à l'école justement. Est-ce que vous vaccinez les 5-11 ans puisque c'est le débat qui commence à monter chez nous aussi?
Alors pour l'instant, Israël ne vaccine pas les 5-11 ans, mais le débat est lancé. Il y a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que la commission gouvernementale chargée de la vaccination s'est réunie la semaine prochaine. Ils en ont débattu en avançant des chiffres, des études, des graphiques, etc. Et tout ça, ça a été filmé et diffusé en direct. Comme ça, ça permettait au public de se faire une idée. Faut dire que autant la vaccination vaccination à partir de 11-16 ans, elle a été assez vite consentie en Israël. Là, pour les enfants, il y a vraiment un débat. Le taux d'adhésion, beaucoup de parents se disent non, quand même, faire vacciner mon enfant à 5 ans, peut-être pas, même si moi, je le suis 3 fois.
Voilà, un débat qui ressemble là, pour le coup, au nôtre. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà pour le pays serein, si je puis dire. Il y en a d'autres bien plus près de nous qui voient arriver les mois d'hiver avec moins d'anxiété que nous. Bonsoir, Bruce de Galzin.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis Rome. Bruce, après un début d'épidémie chez vous qui a été dramatique, les Italiens sont très respectueux des consignes, des gestes barrières. Vous vaccinez et apparemment ça tient. Il n'y a pas de vraie inquiétude chez vous?
Bah non, en tout cas, il n'y a pas d'alarmisme, ça c'est clair. On ne sous-estime pas non plus les signaux d'alerte. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se féliciter d'avoir la meilleure situation épidémique d'Europe avec l'Espagne et le Portugal. C'est le responsable du comité technique et scientifique qui le dit. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, les gestes barrières ici sont encore vraiment dans les têtes. Hein. Alors davantage le port du masque que la distance sociale, car les touristes sont bien revenus et les rassemblements devant les monuments, il y en a partout. Je le vois tous les jours. Mais quand même, les gens portent le masque dehors s'il y a beaucoup de monde, et dedans, pour le coup, c'est très respecté. Une anecdote pour le G20 à Rome, il y a 10 jours, même vacciné, il fallait un test à renouveler au bout de 48 heures et un masque FFP2 à porter à l'intérieur, dans les salles de presse notamment. Quelques journalistes étrangers étaient un peu surpris quand même de tant de mesures de sécurité. Mais donc, le port du masque, ça fonctionne. La vaccination aussi, ça fonctionne bien. Près de 84% des plus de 12 ans sont vaccinés. Et puis, il y a la troisième dose. On est à peu près sur la même courbe qu'en France, mais justement, on veut accélérer encore pour éviter d'être touché, comme une partie de l'Europe, par la pandémie des non-vaccinés. C'est comme ça qu'on l'appelle ici, hein, la pandémie des non-vaccinés. Et on va accélérer, on va rouvrir les centres de vaccination, les gros hubs régionaux qui avaient été fermés, les ouvrir sans rendez-vous. Et puis, ce sera très vite Là, ce sont les plus de 60 ans qui sont vaccinés, ce sera très vite aux plus de 50 ans. Et puis, ça continuera comme ça.
Pandémie des non-vaccinés, on en parlera dans un instant, effectivement, avec l'Allemagne. Ce qu'il faut noter, Bruce, c'est que vous avez un pass sanitaire qui est bien plus sévère que le nôtre.
Ah oui, clairement. Et ça, c'est le troisième pilier qui tient l'Italie sous contrôle après la vaccination et le port du masque. Et en effet, depuis plus d'un mois maintenant, tous les salariés du public comme du privé doivent montrer leur pass sanitaire pour aller au bureau. Hein. Alors comme tous ne sont pas vaccinés, certains font des tests, certains protestent aussi. Mais c'est vrai que cette obligation du pass sanitaire pour 23 millions de travailleurs, ça oblige les plus récalcitrants à au moins se faire tester. Sauf que c'est à leur charge hein, quand même. Et puis certains vont aller se faire vacciner peut-être un peu plus facilement en raison de ce problème d'argent. Mais je le redis, il y a aussi quelques manifestants, sans pour autant que le pays soit bloqué. Mais c'est vrai que l'Italie a été pionnière en fait. C'est le premier pays européen qui oblige les soignants à être vaccinés, obligation vaccinale. C'était en avril quand même ici. Et puis après, on a incité fortement le personnel scolaire. Et finalement, c'est tous les employés qui sont obligés de montrer patte blanche. Et ça va durer au moins jusqu'à l'été prochain, c'est ce qu'on nous dit. Et puis le gouvernement nous rappelle aussi que on a un système de couleurs qui est toujours en vigueur.
C'est vrai.
Mais on est tout en blanc, mais il est possible que certaines régions repassent en jaune, en orange, en rouge.
Et alors, puisque je posais la question tout à l'heure à Frédéric et que c'est un peu notre préoccupation en ce moment, est-ce que vous vaccinez les enfants et à partir de quel âge?
Alors pas encore, mais nous on l'entend de plus en plus. Hein. Les autorités sanitaires sont très claires, elles attendent que le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour lancer la vaccination des 5-11 ans. Il y a plusieurs raisons. Il y en a une, en fait, on nous explique quand même que même si les enfants ne développent pas de maladies graves ou de formes persistantes du Covid, on s'inquiète pour leur éducation et leur formation, on s'inquiète de voir de nouveau les écoles fermées. Et en Italie, c'est un problème parce qu'elles ont été fermées très longtemps. Même les pédiatres, en fait, réclament la vaccination des enfants dès 5 ans. Et aujourd'hui, le chiffre qui court chez nous, c'est que plus d'un quart des nouveaux cas de Covid sont des jeunes qui ont moins de 20 ans.
J'ai une dernière question, Bruce, vous avez 20 secondes pour y répondre. Est-ce que vous avez tombé le masque ou pas du tout?
Pas du tout. Sincèrement.
Même dans la rue.
Non, 20 secondes, pas du tout. C'est assez étonnant de voir, et je fais des allers-retours en France, même si nous, le pass n'est pas... Par exemple, on n'a pas besoin de pass sanitaire pour aller dans les restaurants, contrairement à la France. En tout cas, dans le restaurant, les gens portent le masque. Ils se lèvent pour aller aux toilettes, ils portent le masque. Pour aller payer, ils portent le masque. Même quand on est en terrasse, on porte le masque. Donc, non, ça quand même, c'est assez respecté en Italie.
Merci beaucoup, Bruce de Galzin, avec nous depuis Rome. Direction un pays bien plus inquiet maintenant, c'est l'Allemagne. Bonsoir Nathalie Versieux.
Bonsoir.
Lâchez-vous. On commence à avoir peur, Nathalie, avec des taux de vaccination dans certains lands bien trop bas et des retours à l'hôpital qui sont parfois massifs.
Oui, une pandémie qui serait la pandémie des non-vaccinés. Vous en parliez tout à l'heure. C'est en tout cas ce que ne cessent de répéter les politiques et les responsables sanitaires. Après un démarrage rapide au printemps, la campagne de vaccination patine. Moins de 70% des Allemands sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas n'ont pas l'intention de le faire. Trois quarts des 15 millions d'adultes sans immunité ne se laisseront plus convaincre. C'est en tout cas ce que disent les sondages. Les taux de vaccination sont particulièrement faibles dans deux régions d'Exerdea. La Saxe, la Thuringe, la moyenne des personnes immunisées y est d'environ 40%. C'est deux fois moins que dans le nord du pays, a souligné la corrélation très précise entre le taux de Covid élevé, les faibles taux de vaccination et les niveaux élevés de vote pour l'extrême droite. C'est également dans ces régions qu'ont été organisées les plus grosses manifestations pour protester contre les mesures sanitaires. Et côté sanitaire, grosse inquiétude qui est liée au risque de saturation des hôpitaux, alors que le taux d'incidence a grimpé de 30% en une semaine. L'Allemagne a perdu en plus 1000 lits de réanimation en un an du fait d'un départ massif des soignants, soit qui ont démissionné, soit qui sont en arrêt longue maladie suite à un véritable épuisement.
Alors, ça veut dire que chez vous, et c'est ce qu'on entend, Nathalie, il y a une vraie disparité d'un land à l'autre, mais c'est aussi le cas des mesures, en fait, pour lutter contre la maladie. Donc, comment ça marche chez vous, l'équivalent de notre passe sanitaire à nous ?
Oui, alors en théorie, il faut montrer son téléphone partout pour montrer son vaccin ou son test. Dans les faits, le relâchement est évident. Rares sont les restaurants qui demandent à voir les justificatifs. Sur le plan politique, on peut rappeler que Angela Merkel, sur le départ, ne peut que expédier les affaires courantes. Son successeur potentiel, Olaf Scholz, n'est pas encore en poste. Et c'est donc les Länder qui reprennent la main avec des réponses vraiment variables selon les régions. La Saxe, par exemple, a introduit aujourd'hui le concept dit 2G, donc l'exclusion des restaurants, des stades de foot, des bars ou des cinémas des personnes non vaccinées. La Bavière, qui est elle aussi très touchée, veut par exemple rendre obligatoires les tests PCR, même pour les personnes vaccinées qui voudraient se rendre au restaurant ou dans un café.
Et alors on l'entend, Nathalie, vous êtes effectivement, vous l'avez dit, entre deux gouvernements en ce moment. Il se trouve qu'aujourd'hui, les trois partis de la future coalition, donc les Verts, le SPD, les Libéraux, doivent donner leurs mesures. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Est-ce que déjà ça a commencé ? On va vers quoi ?
Alors en fait, l'état sanitaire avait été décrété jusqu'au 25 novembre, donc il fallait vraiment s'occuper de la suite. La future majorité n'est pas en poste, mais elle va présenter jeudi un projet de loi au Bundestag. Alors on connaît encore que les grandes lignes. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que sous la pression des libéraux, les trois partis de la coalition ont exclu toute idée de vaccination obligatoire, même pour le personnel soignant, alors qu'il y a eu vraiment des cas graves dans certaines maisons de retraite où la moitié du personnel n'était pas vacciné, avec 15 morts dans une maison par exemple dans le Brandebourg. Et on sait aussi qu'il n'y aura pas de nouveau confinement. Tout ça, en tout cas, ça ne sera pas de nature à rassurer le personnel médical qui réclame ce genre de contraintes.
Merci beaucoup Nathalie Versieux avec nous depuis Berlin. Vous aurez remarqué qu'on va vers les situations les plus dramatiques. Et le mot de la fin, pardon, c'est pour vous, Sylvain Tronchet depuis Moscou. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Fabienne.
Pardon, mais chez vous en Russie, ça donne un peu l'impression d'un grand n'importe quoi, sur le fond avec les chiffres, sur la forme avec les mesures prises. Racontez-nous.
Oui, effectivement, les choses n'ont pas toujours beaucoup de sens ici quand il s'agit de la gestion du Covid. Les chiffres, effectivement, vous le disiez, quand le gouvernement reconnaît ici 240 000 morts depuis le début de l'épidémie, l'agence statistique officielle, Rastat, en dénombre 450 000. Ils n'ont pas le même mode de calcul. Mmh. Et en réalité, on serait plutôt aux alentours de 750 000 morts si l'on regarde les chiffres tout aussi officiels des recensements et de la surmortalité en fait enregistrés en Russie depuis janvier 2020, ce qui ferait du bilan russe l'un des plus lourds, sinon le plus lourd au monde. Et puis, face à ça, alors qu'on est au plus haut de l'épidémie actuellement, plus de 1100 morts par jour en ce moment, eh bien les autorités refusent toujours de confiner. Ici à Moscou, on sort d'une semaine de vacances obligatoires pour tout le monde. Vacances très relatives. Et après quelques jours donc de fermeture, le maire de Moscou a expliqué que tout allait mieux, qu'on pouvait rouvrir. Alors il y a bien quelques régions en Sibérie notamment qui prolongent les mesures, mais globalement les autorités rechignent à prendre des mesures fermes, notamment parce qu'elles sont très impopulaires ici, aussi impopulaires que le vaccin local, le Sputnik V, que les Russes n'adoptent pas. On est à peine 33% de la population vaccinée.
Et alors justement Sylvain, si la Russie ne se vaccine pas, c'est parce qu'elle n'a pas confiance dans son vaccin ou pas confiance en Poutine ? Ou les deux, mon capitaine.
Question. Oui, un peu des deux, probablement. Vladimir Poutine, hein, on l'a vu à la télévision, implorer les Russes de se faire vacciner et dire qu'il ne comprenait pas, et ça résume assez bien les choses au fait, il ne comprenait pas pourquoi, dans son propre environnement, ses amis, ses camarades de promo, hein, disait-il, ne se vaccinent pas. Ce que plusieurs Russes m'ont expliqué, c'est qu'ils se méfient de ce vaccin qui a été archi-promu par les autorités. C'était un objet de communication, une arme diplomatique. Ce n'est pas un mauvais vaccin, hein, le Spoutnik, a priori, disent les études, mais les Russes se méfient de la propagande qui est faite autour. Il faut dire qu'ils sont un peu échaudés en la matière, sans parler aussi de toutes les rumeurs qui circulent, notamment sur les effets supposés sur la fertilité qu'il aurait. Bref, les Russes n'en veulent pas. Et les autorités en sont réduites à faire des loteries, figurez-vous, des tombolas pour qui vient se faire vacciner. On pouvait ainsi gagner 10 appartements à Moscou il y a 2 semaines.
Voilà.
Et à Khabarovsk, c'est dans l'extrême-orient russe, il y avait 3 tonnes de charbon à la clé pour se chauffer cet hiver-là, cette semaine, mais rien n'y fait. Les Russes refusent le vaccin, surtout les plus âgés. Alors à Moscou, les plus de 60 ans non vaccinés sont priés de rester chez eux, confinés, et la mairie vient de suspendre les cartes de transport gratuits auxquelles ils ont droit. S'ils veulent les récupérer, eh bien, il faut aller se faire vacciner, ce qu'ils ne font pas pour l'instant.
Et alors c'est fou parce que tout ça, effectivement, ne fait peur à personne apparemment. Chez vous, il y a 0 geste barrière, ou en tout cas tellement, enfin, pas grand-chose.
Ah non, vraiment pas grand-chose. Hein. Je viens prendre le métro, là, il y a environ 2 heures au moment de l'heure de pointe, et on était à peu près à 1 personne sur 2 qui portait le masque dans le métro. Et encore, ça s'est un peu amélioré hein, par rapport à il y a 10 jours où on était à peine à 15%. Dans les salles de spectacle qui fonctionnent à condition d'avoir un QR code, c'est le pass sanitaire ici, hein, quasiment personne ne porte de masque. Dans les bars, les gens se déplacent sans précaution. À la piscine, le contrôle des passes sanitaires est plus qu'aléatoire. Et je parle pas du trafic de QR code qui est devenu un sport national. C'est très étonnant hein, quand on arrive d'un pays d'Europe de l'Ouest. J'entendais Bruce de Galzin raconter la situation italienne. Il faut probablement entrer un peu dans la psyché des Russes pour comprendre cette espèce de désinvolture apparente. Hein. On est dans un pays qui connaît régulièrement de graves crises économiques, politiques, sanitaires tous les 10 ans à peu près, et où le rapport à la mise en danger, à la sécurité personnelle est probablement un peu différent d'une autre. De nombreux Russes autour de moi me disent qu'ils n'en ont rien à faire, hein, qu'ils ne sont pas concernés, que s'ils tombent malades, eh bien ils tombent malades. Mais en attendant, dans le silence, presque dans l'indifférence, c'est la Russie hein, qui paye un très lourd tribut à l'épidémie.
Sylvain Tronchet, merci beaucoup. Sylvain, merci à Bruce de Galzin, Nathalie Versieux et Frédéric Mettezo pour ce petit tour du monde. Et à très vite dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde dans un pays, l'Islande, qui est le premier à expérimenter une méthode de transformation, figurez-vous, du CO2 en roche. C'est étonnant, c'est peut-être très prometteur. C'est aussi passionnant, vous le découvrirez dans un tout petit instant. Le bruit du monde, la suite, Sébastien Legénie.
Nous irons à Singapour, où la condamnation à mort d'un handicapé mental fait polémique.
Le monde selon Biden, comme chaque lundi, et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, à vous les grands espaces, l'Amérique a rouvert ses frontières.
Youpi, le monde d'après, Jean-Marc Faure, bonsoir.
Bonsoir à tous, l'Australie annonce qu'elle va continuer à exporter du charbon pendant des décennies, en plus elle n'est pas la seule, en voilà qui ont tout compris au climat.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni avec la rappeuse Little Sims, I love you, I hate you, ben faudrait savoir.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith, led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero?
around it, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, 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 always.
Le bruit du monde ce soir est en Islande avec cette usine incroyable inaugurée en septembre dernier qui littéralement transforme le CO2, le dioxyde de carbone, en roche, en solide. L'installation est unique au monde, elle a coûté entre 9 et 13 millions d'euros et donc elle aspire l'air ambiant et sait solidifier le CO2 qu'il contient. Alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais le GIEC approuve cette méthode, c'est vous dire qu'on n'est pas du tout chez des inventeurs fous, c'est bien réel, ça peut être très utile, c'est peut-être notre avenir. On vous y emmène dans cette usine et le reste c'est Jérémy Richard qui raconte.
Près des reliefs escarpés d'un massif volcanique se dresse une imposante structure d'acier. Des ventilateurs assemblés à l'avant de conteneurs de transport maritime aspirent l'air ambiant qui ressort à l'arrière, débarrassé d'une grande partie du CO2. Lucas Kaufmann est ingénieur et chef de projet pour Climeworks.
Il y a un matériau filtrant très sélectif à l'intérieur de nos conteneurs qui attrape les molécules de CO2. Dès que le filtre est plein, on le ferme, on le chauffe, puis on récupère le dioxyde de carbone dans la chambre essentiellement sous forme de gaz pur.
Le gaz carbonique transite dans des tuyaux aériens vers un hangar de traitement où il subit un dernier toilettage avant d'être envoyé vers des dômes situés à plus de 3 km. À l'intérieur, le CO2 est dissous dans de l'eau douce et injecté via un puits dans le basalte à faible profondeur. Sigurður Gíslason, géochimiste à l'Université d'Islande et membre du consortium scientifique CarbFix.
L'eau chargée en dioxyde de carbone attaque la roche basaltique qui libère du calcium, du magnésium et du fer. Au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le sol, plus loin du puits d'injection, une réaction chimique s'opère et le CO2 commence à se solidifier. On dit que le dioxyde de carbone s'est minéralisé, c'est-à-dire transformé en une roche stable.
Le CO2 s'incruste en fait dans les petites cavités de la roche basaltique, brune et poreuse, sous forme de cristaux blanchâtres. Ce processus existe déjà dans la nature, mais peut prendre des centaines de milliers d'années. CarbFix l'accélère en moins de 2 ans et débarrasse ainsi le dioxyde de carbone durablement de l'atmosphère. Une fois stocké, le principal danger, c'est la chaleur, avertit Didier Dalmazone, professeur en génie chimique à l'ENSTA à Paris.
Ce qui peut en effet faire que le CO2 se relibérerait dans l'atmosphère, ce serait que les roches soient chauffées à haute température. Donc effectivement, en cas d'éruption volcanique, on va avoir une calcination de ces roches qui sont des carbonates et elles vont relarguer du CO2 puis se retrouver sous forme d'oxyde métallique.
Aucune éruption n'a eu lieu dans la zone volcanique autour du site depuis 1900 ans. L'usine, baptisée Orca, est stratégiquement située à proximité des turbines fumantes de la centrale géothermique de Hetlisheide. Julie Gossalves est directrice marketing de l'entreprise suisse Climeworks.
D'être placé là, ça permet d'être à proximité de la source d'énergie et à proximité de la source d'injection, et donc la facilité de stockage, sans démultiplier les coûts de transport dans un sens ou dans l'autre.
En capturant jusqu'à 4000 tonnes de CO2 par an directement dans l'air, Orca est la plus grande installation de ce type au monde. Sa capacité reste néanmoins très faible en comparaison aux 40 milliards de tonnes émises en 2020. Mais la filière n'en est qu'à ses débuts, précise Julie Gossalves.
Ça a été notre parti pris de construire une usine le plus vite possible, même si elle est encore relativement petite. On est très lucide là-dessus. Mais justement, parce qu'il est très important d'apprendre à marcher avant de savoir courir. Et donc, on peut que industrialiser des processus et des procédés technologiques qui sont déjà en place.
Car la technologie la plus avancée à ce jour ne fait que filtrer les rejets de CO2 avant leur entrée dans l'atmosphère, par exemple à la source polluante d'une manufacture où le gaz carbonique est présent en forte concentration. Mais une large moitié des émissions flotte déjà dans l'air et sort sans solution des pots d'échappement des voitures ou des réacteurs des avions. Le procédé est un défi à l'heure actuelle car la concentration de CO2 est plus faible dans l'atmosphère. Orca doit ainsi avaler 2 millions de mètres cubes d'air pour traiter une seule tonne de dioxyde de carbone. Didier Dalmazon, professeur en génie chimique.
Plus on va avoir un taux de capture élevé, plus ça sera coûteux. Parfois, on peut facilement se contenter d'un taux de capture de 60 ou 70%. Ça peut être moins coûteux et faire l'affaire malgré tout, puisque le but, c'est de retirer du CO2. C'est pas de retirer tout le CO2.
Traiter de telles quantités d'air et chauffer les filtres pour récupérer le CO2 demande énormément d'énergie et chaque tonne de gaz carbonique enfoui nécessite 25 tonnes d'eau douce. En Islande, pays d'innombrables sources géothermiques aux copieuses réserves d'eau, les conditions sont optimales pour tester cette nouvelle technique. Une injection expérimentale de CO2 dans le basalte avec de l'eau de mer doit être menée l'été prochain par Carbfix pour adapter la méthode ailleurs dans le monde.
Incroyable et passionnante expérience racontée pour nous par Jérémy Richard. Merci beaucoup Jérémy. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Nous sommes à Singapour, Sébastien, où le cas d'un condamné à mort pour trafic de drogue fait polémique.
Il s'appelle Dharma Lingam. C'est un homme âgé de 33 ans, condamné donc à la peine capitale pour avoir transporté 43 grammes d'héroïne sur lui, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Dharma Lingam a passé plus de 10 ans dans les geôles de Singapour et il devait être exécuté dans 2 jours, mais son cas a été suspendu, on l'a su aujourd'hui. L'histoire pourrait s'arrêter là. Singapour, on le sait, dispose de l'une des législations les plus sévères au monde sur la drogue, sauf que dans le cas qui nous occupe, la cité-état s'apprêtait à exécuter un handicapé mental. Dharma Lingam a un QI des 69, un niveau extrêmement bas, ça correspond à un handicap mental. La semaine dernière, son cas a mobilisé toutes les grandes ONG mondiales, Amnesty International, Human Rights Watch et les associations locales. Ce chercheur malaisien sur la peine de mort explique que cette peine de mort ne répond à aucun des standards juridiques internationaux. Singapour commettrait un grave crime contre l'humanité, selon ce chercheur, si la cité-État procédait à sa pendaison. Il en appelle au gouvernement malaisien pour mettre la pression sur Singapour. La pression internationale du pays voisin et des ONG semble avoir porté ses fruits. On a appris donc ce midi que la haute cour de Singapour avait accepté de suspendre l'exécution. Concrètement, les magistrats attendent le résultat d'un appel déposé par les avocats qui affirment que cette pendaison est inconstitutionnelle. On ne sait pas combien de temps va durer cette suspension. En attendant, l'Union européenne demande à commuer la sentence en une peine d'emprisonnement.
Direction le Proche-Orient, avec une radio palestinienne qui émet en anglais et surtout en hébreu.
Oui, Jérusalem 24 a commencé à émettre en septembre. C'est une radio palestinienne composée d'une équipe de journalistes palestiniens mais qui cible les auditeurs israéliens. Ce n'est pas la première radio arabe dans l'histoire à émettre en hébreu. Radio Al-Quds, dans les années 30, avait tenté l'expérience, mais depuis plus rien. Jérusalem 24 a été créé pour combler un vide médiatique, selon ses fondateurs, parler aux Israéliens, mais du point de vue palestinien. On entend là la rédactrice en chef de Jérusalem 24. Il y a un vrai vide, dit-elle. C'est le discours israélien qui domine tous les médias dans le monde. Il nous fallait donc une radio qui s'adresse aux membres de la communauté israélienne afin de les sensibiliser à ce que nous vivons. Concrètement, Jérusalem 24 parle de l'occupation des territoires palestiniens, mais n'épargne pas non plus l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. 6 journalistes au total, une toute petite équipe financée en partie par une ONG protestante suédoise. Jérusalem 24 qui compte aussi beaucoup sur sa programmation musicale pour capter de nouveaux auditeurs plus jeunes. À l'oreille, Fabienne, à l'exception des flashs d'infos, on n'est pas très loin de Skyrock.
Allez, on termine avec la Turquie où la guerre de la banane fait rage sur les réseaux sociaux.
Dit comme ça, on pourrait croire un hashtag de plus sur TikTok, sauf que c'est bien plus sérieux et grave que cela. L'histoire est un signe de plus des tensions qui ne cessent de croître entre les Turcs et les 4 millions de réfugiés syriens qui vivent dans le pays. Tout commence par un extrait de micro-trottoir qui a fait le tour des réseaux il y a quelques jours. On y voit un Turc s'en prendre à une étudiante syrienne et lui reprocher d'acheter des kilos de bananes alors que lui, dit-il, n'aurait même pas de quoi en manger une seule. Dans la même vidéo, une femme accuse aussi les Syriens de vivre tranquillement en Turquie alors qu'ils devraient aller se battre dans leur pays. Bref, un acte de xénophobie ordinaire que des Syriens décident de tourner en dérision.
On entend ici une vidéo satirique d'un journaliste syrien qui se cache tel un espion pour acheter et manger des bananes. Mais la blague n'a pas du tout fait rire les autorités qui l'ont arrêté. Il est aujourd'hui menacé d'expulsion comme 11 autres Syriens. Le racisme anti-syrien qui progresse dans une Turquie en pleine crise économique. Fin septembre, un gouverneur du nord-est du pays a imposé un couvre-feu aux migrants pour les inciter, je cite, à respecter les traditions turques. Et puis quelques mois plus tôt, un autre élu local proposait, lui, de faire payer l'eau plus cher aux étrangers.
Sébastien Le Génie sous les radars, merci beaucoup Sébastien et à demain. Ben voilà, j'allais dire que c'est Amy Winehouse qu'on entend maintenant. Que voilà.
À demain Fabienne.
Ah, mais à demain. Jambes de vacances, allez, sortez de Winehouse, Our Day Will Come sur France Inter, du Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis, c'est maintenant car c'est lundi.
France Inter, un jour dans le monde. I pledge to be a president who seeks not
to divide. Le monde selon Biden, donc comme chaque lundi soir avec vous, Sébastien Paour et l'Amérique de Biden. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui rouvre ses frontières. Ah, 20 mois que le Covid avait fermé les États-Unis, Sébastien, certains sont revenus chez vous. Eh ben, dès aujourd'hui, dès le premier jour.
Bah oui, notamment les familles qui ont été séparées dès leur avec ce travel ban mis en place par Trump, maintenu par Biden ensuite. Des familles qui ont un parent ici aux États-Unis qui se précipitent aux frontières terrestres d'abord, Canada et Mexique, pour retrouver les leurs. Embouteillage devant les trois ponts à Ciudad Juarez qui permettent de passer à El Paso au Texas. On a même installé des toilettes portables pour rendre l'attente moins désagréable. Embouteillage presque aussi dans les aéroports, les vols sont chargés, on affrète des avions plus gros, les compagnies aériennes se réjouissent, les hôtels se frottent les mains ici aux États-Unis et notamment à Times Square à New York où le célèbre Naked Cowboy que vous connaissez Fabienne, qui
enfin,
chante en slip, en chapeau et en bottes blanches, il est habillé comme ça toute l'année, habillé si on peut dire, il a composé un morceau spécialement pour les Anglais. It's been 602 days since the Brits have been away. Now they're coming back and we surely welcome that. Hey Brits, grab your things, fly across the sea. Find the naked cowboy, yeah, I'm talking about me. So anyway...
Rime riche, hein.
Voilà, il parle de lui, il chante que ça fait 602 jours que les Britanniques ne sont pas venus, j'ai pas vérifié, qu'ils sont les bienvenus. C'est un morceau spécialement écrit pour le micro de Loïc Clory, correspondant de Radio France à New York. Le retour aux États-Unis, on le rappelle, se fait avec vaccin et avec test négatif de moins de 3 jours.
Et oui, alors l'Amérique rouvre ses frontières. Sébastien, le plan infrastructure de Biden est voté et c'est la journée de Pete Buttigieg.
Oui, le secrétaire au transport, ancien candidat à la primaire démocrate, ravi évidemment de voir revenir les touristes.
Je suis sur le point de prendre l'avion pour le Royaume-Uni pour participer à la partie transport des négociations sur le climat qui se déroule à Glasgow. Et j'aime l'idée que l'avion qui va m'emmener de l'autre côté de l'Atlantique va revenir aux États-Unis rempli de voyageurs qui attendent depuis longtemps cette opportunité. Maintenant, c'est le premier jour, il y a beaucoup de demandes, donc les gens peuvent s'attendre à ce qu'il y ait de longues files d'attente avec la mise en place de ce nouveau système. Mais je pense que beaucoup de gens vont arriver enchantés aux États-Unis.
Voilà, Buttigieg réjoui ce matin sur CNN, ravi aussi des 1200 milliards de dollars du plan infrastructure qui a été donc voté la semaine dernière, qui vont servir à construire, on l'a déjà dit, mais on le rappelle, ou à rénover nombre d'ouvrages. Je vous ai pris un exemple, le Brent Spencer Bridge, c'est le pont sur la rivière Ohio, entre l'État de l'Ohio et le Kentucky, c'est le troisième pont le plus emprunté du pays. Il a ouvert en 1963, on était sous Kennedy, il était conçu à l'époque pour 85 000 véhicules par jour. 58 ans après, on est à plus du double. 2,7 milliards de dollars sont prévus pour le renforcer.
Et il y aura aussi de l'argent pour les bornes de recharge électrique, Sébastien.
Oui, partout dans le pays, dans les États bleus comme dans les États rouges, le changement climatique se moque qu'on soit démocrate ou républicain. Ça, c'est Barack Obama, l'ancien président, qui l'a dit tout à l'heure, toujours à la COP à Glasgow.
Peu importe que vous soyez un républicain ou un démocrate, si votre maison en Floride est inondée par la montée des eaux, ou que votre maison en Californie brûle, la nature, la physique, la science ne se préoccupent pas de l'étiquette politique. Et ce qui est vrai aux États-Unis est vrai dans tous les pays. Nous n'avons pas besoin que les démocrates, les verts, les progressistes travaillent ensemble sur ce problème existentiel. Nous avons besoin de tout le monde.
Voilà, Obama depuis Glasgow ce matin, applaudi après son discours tout à l'heure.
Allez, avant de se quitter, deux infos encore en bref, Sem.
Alors, Elon Musk a demandé ce week-end à ses 63 millions de followers sur Twitter s'il devait vendre 10% de ses actions Tesla, la voiture électrique, pour payer moins d'impôts si la taxe sur les très riches passait au Congrès. Ses abonnés ont dit oui à presque 58%. Il fait souvent des votes comme ça. Le patron loufoque, qui est en théorie l'homme le plus riche du monde, va donc vendre une partie de ses actions. Il va toucher quelques 21 milliards de dollars. Et sinon, toujours sur Twitter, c'est Biden qui répond à Big Bird. Vous connaissez Big Bird, c'est l'oiseau jaune de l'émission pour enfants 1 Rue Sésame, c'était Toccata dans la version française. Lui, il a éternellement 6 ans et demi, donc il s'est fait vacciner, puisque le vaccin Pfizer est désormais autorisé ici pour les 5-11 ans. Il l'a dit sur Twitter, Big Bird, et donc le président américain lui a répondu pour le féliciter. Tout est bon pour faire progresser la vaccination. Plus de 193 millions d'Américains complètement vaccinés à l'heure qu'il est. C'est pas tout à fait 6 sur 10. Et puis, j'avais gardé un petit truc pour vous après les vacances, Fabienne. La réponse, c'est 47,5, la pointure de Michael Jordan.
Bah, je vous remercie beaucoup. Je me souviens très très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Vraiment. Allez,
salut,
à lundi.
Fabienne.
Ciao.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, la première semaine de la COP26, on en parlait à l'instant à Glasgow, a été marquée par une salve d'annonces spectaculaire, donc, mais la seconde semaine démarre sous des auspices nettement plus défavorables. C'est l'Australie qui a donné le ton et ça ne vous rend pas optimiste, c'est votre monde d'après.
Oui, en langage trivial, ça peut se traduire par « on n'en a rien à péter ». Voilà à peu près le message envoyé ce matin par le gouvernement australien. Concrètement, l'Australie annonce qu'elle va continuer à vendre du charbon, je cite, « pendant des décennies ». Autrement dit, les engagement d'une quarantaine de pays à sortir du charbon, c'est pas notre problème. La lutte contre le réchauffement climatique attendra. Le charbon, c'est pourtant l'énergie fossile polluante par excellence et surtout l'Australie, on le sait, est aux premières loges pour constater les effets du réchauffement, feux de forêt, cyclones, inondations. Mais le gouvernement conservateur de Scott Morrison reste sourd et aveugle. Il avance trois arguments pour justifier sa décision et seul le premier est recevable. Entre 150 000 et 300 000 emplois dépendent de cette industrie en Australie. Les deux autres arguments sont assez fallacieux. L'Australie explique d'abord qu'elle produit du charbon, je cite, de haute qualité. Mais bon, il pollue quand même. Elle ajoute ensuite que si elle renonce à exporter son charbon, d'autres, la Russie par exemple, le feront à sa place parce que la demande mondiale continue d'augmenter. Mais bon, à ce compte-là, on n'avancera jamais. Le souci, c'est que l'Australie n'est pas un cas isolé. La Russie, on le disait à l'instant, la Chine, l'Inde, même les États-Unis n'ont toujours pas pris d'engagement précis sur une date de sortie du charbon. Bref, on n'est pas rendu.
Donc ça veut dire aussi, Jean-Marc, que les grands groupes pétroliers et miniers aussi d'ailleurs continuent d'avoir de l'influence.
Oui, et pas qu'un peu. Il y a un indice très révélateur, c'est la composition des délégations présentes à la COP26. Elle a été décortiquée par l'ONG Global Witness, analyse relayée aujourd'hui par nos confrères de la BBC. Devinez quelle est en fait la plus grosse délégation, celle des lobbyistes des industries fossiles. Ils sont plus de 500 à Glasgow. C'est deux fois plus, par exemple, que la délégation britannique qui est pourtant hôte de la conférence. Alors évidemment, ils n'avancent pas à visage découvert sous une seule bannière. Non, ils sont disséminés, et j'allais dire dissimulés, dans les délégations nationales, celles de la Russie ou du Canada, par exemple, ou regroupés dans des associations comme l'IETA, International Emissions Trading Association, qui représente les intérêts des grosses multinationales pétrolières. L'ONG Global Witness compare cette situation à celle qu'a connue l'Organisation Mondiale de la Santé pendant de longues années, lorsque l'industrie du tabac était invitée aux discussions sur les effets cancérigènes de la nicotine. L'industrie pétrolière répond qu'elle envoie à la COP des ingénieurs experts qui viennent là pour réfléchir à des solutions d'avenir moins polluantes. On aimerait bien y croire, mais on a un peu de mal quand même vu le nombre des lobbyistes, répétons-le, plus de 500, et vu comment surtout les multinationales des énergies fossiles ont freiné la lutte contre le réchauffement depuis 40 ans.
Alors quand même, Jean-Marc, on l'a un peu souligné tout à l'heure, il y a eu une avalanche d'annonces encourageantes en fin de semaine.
Oui, c'est vrai. La plus significative, on le disait, c'est donc celle de ces 40 pays décidés à sortir du charbon d'ici 2030 ou 2040, avec des noms encore inespérés il y a quelques mois, le Canada, l'Ukraine, même la Pologne, pourtant très tributaire du charbon et d'un charbon souvent très polluant. Retenons aussi cette annonce de l'Inde qui entend désormais viser la neutralité carbone à l'horizon 2070. C'est la première fois que New Delhi entre dans ce type de raisonnement, même si c'est un horizon qui reste pour l'instant très lointain. Donc tout ça va dans le bon sens, mais là aussi je vais faire l'oiseau de mauvaise augure. Ces annonces posent un autre problème. Comme toutes les promesses, elles engagent surtout ceux qui les écoutent. Et pour l'instant, les actes des États ne sont que rarement en concordance avec leurs engagements. La réalité, c'est qu'à court terme, les États, pour la plupart, continuent d'accroître leurs émissions d'énergie fossile. C'est un peu, pour continuer dans la comparaison avec le tabac, comme un fumeur qui dirait « j'arrête de fumer » au moment où il s'achète une cartouche de paquet. Les gouvernements prennent donc des engagements qui concerneront leurs successeurs. Pour ne rien arranger, ces engagements souvent reposent sur des innovations technologiques futures qui ne sont pas encore opérationnelles. Bref, comme souvent avec les promesses politiques, elles relèvent du bonimenteur. La COP26 devrait en fait se préoccuper de rendre les États redevables de leurs actes et donc sanctionnables en cas de promesses non tenues. Oui, je sais, je suis naïf.
Voilà, mais c'est comme ça qu'on vous aime, Jean-Marc Four. Merci beaucoup. À demain, bien sûr. Nous, on reste ensemble pour le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Fini d'abord et puis le téléphone sonne. Ne bougez pas, à tout de suite.